Les colloques du Collège de France.
Bien, bonjour. Nous allons reprendre les travaux de ce colloque et je suis très heureuse en particulier de présider cette session consacrée au droit naturel et à l'anti-esclavagisme et tout particulièrement d'introduire la communication de Thierry Hoquet. Thierry Hoquet est professeur à l'Université Paris-Nanterre et membre de l'Institut universitaire de France. Il dirige également la revue Critique. Et après des travaux consacrés à l'histoire naturelle, en particulier chez Buffon, et je me permets de signaler que nous avions la même directrice de thèse, hein, Francine Markowitz, voilà. Et en particulier donc aux travaux de Buffon et de Linné, il s'est intéressé à Darwin, au post-darwinisme, et également à la théorie biologique des sexes et des races. Son dernier ouvrage paru, Histoire des, entre parenthèses, coloniales de la philosophie française aux presses universitaires de France en 2025. Donc Thierry Hoquet va nous proposer une communication intitulée « Esclavage, servage et servitude ».
Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Au commencement de mes réflexions, il y eut un inconfort, Laclos, dans les liaisons dangereuses, affirme que conquérir est notre destin et ne cesse de jouer sur le trope de l'esclave qui aime ses chaînes. Dans la lettre 4, Valmont déclare à Merteuil « Vous feriez chérir le despotisme, je regrette de ne plus être votre esclave ». Et plus loin, la lettre 79 raconte l'histoire d'une épouse infidèle et conclut ainsi « Et l'esclave, fugitive, livrée de nouveau à son ancien maître, fut trop heureuse de pouvoir espérer son pardon en reprenant sa première chaîne. » Cette figure de l'amoureux, esclave de ses passions, asservi et soumis à un maître qui est le mari ou à une maîtresse qui peut se faire despote, ce lexique de la servitude constitue un champ sémantique, il me semble, qui est miné, pluriel et surchargé de dimensions métaphoriques. Alors, dans son introduction au colloque hier à la Bibliothèque nationale, Gabriel Dariula, que je remercie à nouveau, soulignait le sens et le poids qu'il mettait dans le mot « cosmopolite ». L'idéal cosmopolite entend unifier la diversité du monde, dépasser les circonstances locales dans l'espoir de former une commune humanité ou une communauté humaine transcendant les bornes de la religion, de la race ou de la nation. On a beaucoup débattu au cours de ces deux journées pour savoir s'il valait mieux qualifier de fraternité cet idéal selon lequel tous les humains ne forment qu'une seule et même famille qui outrepasse toutes les différences. On pourrait dire également, cela a été évoqué, humanisme ou universalisme plutôt que cosmopolitisme. Je dirais aujourd'hui, peu importe la coupe, pourvu qu'on ait l'anti-esclavagisme. Ce qui frappe et qui doit nous retenir ici, c'est un anti-esclavagisme qui dépasse le strict cas des esclaves au sens restreint des personnes enslavées aux Amériques et déportées donc par les Européens. Car l'esclavage, entre guillemets, donc, n'est pas une réalité limitée au cas de la traite triangulaire. C'est une réalité qui traverse les frontières. C'est un marché capitaliste transnational. Buffon offrait déjà dans son Histoire naturelle un tableau général de l'esclavage sans frontières. L'esclavage lui-même est en un sens cosmopolite, au sens où il est partout chez lui, au sens où c'est peut-être la chose du monde la mieux partagée. Est-il donc possible, évident, ou bien au contraire absolument illégitime, de distinguer des personnes asservies dans la servitude des passions, des personnes serves ou des personnes slaves et des esclaves, des personnes qu'on appellera enslavées pour souligner la violence de la manière dont elles ont été réduites à l'esclavage contre leur gré. Les esclaves d'Alger ou d'Istanbul sont-ils comparables à celui que Voltaire décrivait comme le nègre de Suriname ou aux esclaves révoltés de Saint-Domingue dont on a parlé hier? Sans doute pas. L'esclavage, toujours singulier, toujours différent, devient une sorte de réalité nominale disparaissant sous des institutions concrètes qui sont ce que, précisément, on doit étudier. Le but de ma communication est donc de revenir au doublé formé en français par les traductions possibles de l'unique terme latin « servus ». Et ces deux traductions, ce sont « ser » d'un côté, les serfs du Moyen-Âge, et d'autre part, les esclaves. En effet, en rattachant la lutte contre l'esclavage à la lutte menée contre le servage, on comprend, en remontant donc au-delà de l'esclavage au servage, que l'anti-esclavagisme est en réalité une lutte contre toute forme de servitude, visant donc à un idéal d'émancipation de l'humanité dans son ensemble. Et c'est en ce sens que j'entends ici l'affaire cosmopolite. Les relations conceptuelles entre esclaves et serfs sont bien sûr l'objet d'une littérature abondante qui interroge cette distinction conceptuelle entre des statuts juridiques différents, mais un débat également est essentiel autour des enjeux historiographiques complexes, impliquant notamment, et vous me pardonnerez ici la grossièreté des catégories mobilisées, mais la transition de l'Antiquité au Moyen-Âge, ou de l'Antiquité à la modernité via le Moyen-Âge. Mais également le rôle qu'a pu jouer la religion chrétienne dans l'émancipation générale du genre humain. Alors, pour opérer ce nouage entre la question de l'esclavage et celle de la servitude, je souhaiterais partir, ou ancrer plutôt, la réflexion philosophique dans une affaire concrète qui est bien connue des historiens, l'affaire Boucaud contre Verdelin, débattue et jugée en 1738, une cause célèbre donc recueillie ou compilée par Gaillot de Pitaval dans sa très précieuse collection. Alors, qui est Jean Boucaud ? Vous avez ici les principaux protagonistes de l'affaire. C'est un créole, esclave du gouverneur du Cap-François, né de parents catholiques, esclave à Saint-Domingue, et dont le père en particulier était noir, comme l'ont montré les travaux d'Éric Noël dans sa très utile dictionnaire des gens de couleur. Conduit en France, à La Rochelle, par son maître Bernard Verdelin en 1728, il est arrêté et emprisonné au Châtelet 10 ans plus tard, en 1738, car son maître redoute sa fuite. Boucaud bénéficie alors de l'aide d'un avocat nommé Maître Mallet pour demander sa libération et poursuivre son maître en demande de dommages et intérêts pour emprisonnement abusif. À la fin de l'été, donc, les avocats présentent leurs arguments devant le tribunal de l'Amirauté et ils sont très intéressants de les étudier, notamment, outre la plaidoirie de Maître Mallet et celle de l'avocat adverse, de la partie adverse, Maître Tribard, on a également les avis de Leclerc du Brier, le procureur du roi, qui vont nous éclairer. Ce qui est important, c'est que le cœur de cette argumentation est que Boucaud doit être reconnu libre car l'esclavage n'existe pas en France. En posant le pied sur le sol français, tout esclave devient, et donc Boucaud devient, nécessairement un homme libre. Alors, ce qui nous intéresse dans ce débat et dans ces plaidoiries, c'est qu'elles retracent l'arrière-plan juridique sur lequel se détache, si l'on veut, le code noir. C'est-à-dire, quelle est la situation des esclaves sur le territoire métropolitain. L'histoire qu'elle raconte vise à montrer comment l'esclavage est apparu sur un territoire aujourd'hui identifié comme la France, comment il a été aboli et d'où vient la maxime selon laquelle un esclave qui pose le pied en France est automatiquement libre. Donc, c'est l'histoire de ces arguments que je voudrais rapidement retracer devant vous. Alors, la distinction conceptuelle entre les serfs et les esclaves est d'abord un thème abondamment développé dans la littérature philosophique. C'est pourquoi, sans vouloir rouvrir cette question si ample du droit d'esclavage dans une guerre juste, il faut malgré tout faire quelques rappels qui servent d'arrière-plan ici à ces débats. Alors, le lien entre esclavage et servitude est inscrit dans le mot latin « servus »,« servi », dont il dérive et il a suscité de nombreux rapprochements. Ouvrons par exemple le monumental traité de Grotius, Hugo de Groot, De Iure Belli ac Pacis, du droit de la guerre et de la paix. Il ne traite pas directement de la question « y a-t-il quelque esclavage qui soit juste ?», mais il affirme nettement deux causes possibles de la servitude. Une origine involontaire, c'est-à-dire la punition reçue après un délit, qui justifie ici dans ce cadre l'asservissement, juge Grotius. Et d'autre part, la perte de liberté, on pourrait dire volontaire, lorsque Grotius affirme, en s'appuyant prétendument, mais ce point est débattu, notamment par Barbeyrac qui traduira le texte en français, s'appuie sur l'étude des lois des Hébreux et des Romains pour dire que tout homme avait cette permission de se vendre comme esclave à qui il voulait. Ce qui est intéressant chez Grotius, c'est que ce droit de se vendre à soi-même,
se vendre soi-même, pardon, indique qu'il peut y avoir une servitude volontaire, que la liberté est une chose que l'on peut aliéner, qu'on peut renoncer au droit de se gouverner soi-même pour confier cette tâche à un autre, et que cela peut construire une analogie avec la soumission volontaire d'un peuple à un souverain. Donc on a ici un modèle du devenir citoyen, on pourrait dire, qui est proposé par cette transmission de volonté. Ici, ces arguments vont donner l'objet de nombreuses discussions, mais je voudrais les mettre en perspective avec la thèse de Hobbes, formulée notamment dans son traité du citoyen, le Dekiwe. Cette thèse est remarquable en ce qu'elle montre que le pouvoir des maîtres n'est pas le seul effet d'une sorte de domination despotique, mais qu'elle suppose, entre le vainqueur et le vaincu, une sorte de convention tacite par laquelle le vaincu consent à être approprié par le premier. Alors, c'est très clair dans le Léviathan, notamment, où le mot « servus », celui qui donc accepte de servir, je le répète, non pas par la domination du plus fort, mais par la promesse que lui-même a prise de servir, ce « servus » dans le Léviathan, en 1651, écrit en anglais, est traduit par Hobbes, par le mot « servant », donc « servant », « serviteur » si vous voulez. Et dans le Léviathan toujours, Hobbes prend la peine de démarquer ce terme de « servant » du terme de « slave ». Il dit « le servant, le serviteur n'est pas l'esclave, n'est pas le slave ». Ce n'est pourtant pas cette leçon qui est retenue par le traducteur français Sorbière pour le « Dekiwe » qui est antérieur au Léviathan. Que fait Sorbière ici? Vous le voyez ici, vous avez la version latine à droite et la version française, la traduction française à gauche. Sorbière a systématiquement traduit le latin « servus » par le mot français « esclave ». D'une part, dans sa traduction, quand Hobbes utilise le mot « servus », Sorbière traduit « serf » ou « esclave » parfois, donc il utilise un doublé, il dédouble le mot latin. Et d'autre part, dans une note qui est mise dans le texte, mais qui passe presque inaperçue, et qui n'est pas de Hobbes, Sorbière s'exprime lui-même et indique « j'eusse employé le mot de domestique », pour traduire donc « servus », ce « servant », serviteur, j'eusse employé le mot de domestique si je n'eusse pensé que celui d'esclave exprimait mieux la privation de la liberté qui est ici exposée. Donc on voit ici que Sorbière fait irruption dans le texte de Hobbes pour montrer que cette privation de liberté ne doit pas s'entendre au sens restreint de serviteur, mais doit porter le nom d'esclave. Alors c'est quelque chose qui est très intéressant au niveau lexical, hein, sachant que Hobbes lui-même, quand il va traduire le Léviathan en anglais, il va être obligé, lui, d'utiliser le seul mot latin disponible, à savoir « servus ». Donc ça, c'est un premier exemple de ces va-et-vient conceptuels. J'en donnerai un autre exemple très rapidement, mais avec beaucoup d'embarras, car Céline Spector, ici présente, est une grande spécialiste de ces questions, et elle a écrit de très beaux traités et articles à ce sujet. Mais si on prend le cas de Rousseau dans le contrat social, on sait que Rousseau fait, au chapitre 4 de la première partie, la critique de Grotius et de Hobbes, et qu'on lui a souvent reproché, à Rousseau, de n'y parler des esclaves qu'en un sens métaphorique. Du point de vue même de la logique, on pourrait dire, du contrat social, il a été souligné dès un article de Jean Lefranc en 1982, « Le contrat social peut-il fonder l'esclavage ?» cette idée que une république bien instituée peut entreprendre une guerre injuste, et à partir du moment où elle se donne le droit de tuer les vaincus, elle peut aussi bien se donner le droit de les asservir. C'est ce dont témoigne ici ce passage du chapitre 5 du livre 3, où vous avez cette très belle phrase qui donne son titre à un article de Madame Spector. Pour vous, peuple moderne, vous n'avez point d'esclaves, mais vous l'êtes, etc. Donc, ici, on voit que les noms de serfs, d'esclaves sont l'enjeu d'enjeux de traduction et une interrogation se fait jour concernant ce sens qu'on doit donner au mot esclave et si esclave décrit uniquement la réalité des personnes enslavées dans les Amériques. Assez, il me semble ici, de préalable théorique, mais l'idée c'est d'éclaircir ce qui va se jouer dans l'affaire Boucaud contre Verdelin. Alors j'y viens. Tous les participants du procès rappellent que selon le droit naturel, tous les hommes naissent libres, mais que l'histoire humaine empêche cet état de perdurer. Pendant une guerre, les vainqueurs réduisent leurs ennemis en esclavage, et c'est l'explication étymologique le plus souvent donnée au terme « esclave ». On dit souvent, et c'est ce qui est rappelé dans les minutes du procès, « Servus serait celui qui a été sauvé, le vaincu, épargné par les vainqueurs. S'il est assujetti et s'il doit obéir à un maître, s'il doit servire, donc servir, c'est qu'il a été conservé, sauvé, préservé, mot qui vient du verbe latin « servare » cette fois, et on dit donc qu'il y va de sa préservation de sa vie. Ceux que l'infortune de la guerre assujettissait aux vainqueurs furent appelés esclaves, bien moins asserviendo de ceux qu'ils servent que asservando de ceux qu'ils ont été sauvés, on pourrait dire, ou conservés. Mallet, l'avocat de l'esclave, Boucaud, commente ironiquement ce point. Alors le christianisme commençait à s'accréditer, on se désabusa de cette prétendue charité chrétienne de faire de son vaincu un esclave plutôt que de le massacrer, charité qui est plutôt celle du brigand qui se glorifie d'avoir donné la vie à ceux qu'il n'a pas tués. Et ce qui est très intéressant dans cet élément de la plaidoirie, c'est que, en vérité, c'est une citation quasi littérale de Jean Bodin, qui, dans ses livres de la République, notait « C'est la charité des voleurs et corsaires qui se glorifie d'avoir donné la vie à ceux qu'ils n'ont pas tués. » Alors, ici, Bodin résume les différentes justifications qui ont été données de l'esclavage. Tout d'abord, que l'esclavage est manifestement conforme à la nature, car il a perduré si longtemps et que tant de communautés en ont profité. Et deuxièmement, face au choix entre tuer un captif et le réduire en esclavage, l'esclavage paraît constituer l'acte le plus charitable. Mais en vérité, Bodin réduit en miettes tous ses arguments, et vous avez ici la conclusion de son raisonnement. Hein. Selon lui, l'esclavage constitue bien une institution durable, mais n'a pourtant rien de naturel. Il n'est au contraire que la conséquence de nos jugements moraux dépravés. Autrement dit, l'être humain, du fait de son libre arbitre, choisit parfois de mal agir. Si cette erreur est commise par ceux qui détiennent le pouvoir, le mal peut même perdurer longtemps, et malgré sa manifeste contrariété avec la nature. L'esclavage est donc rendu par Bodin à sa nature d'institution contre nature. Et Mallet, l'avocat de l'esclave, mentionne explicitement Bodin parmi tous ceux qui ont approuvé ce principe que j'évoquais en introduction, à savoir celui selon lequel la terre de France a franchi. C'est à ce propos que l'avocat de la partie adverse, Maître Tribard, lui répond. Je vais lire simplement le passage en gras ici. C'est cet auteur, Bodin, qui introduit la fameuse dispute qui s'était élevée entre Aristote et quelques jurisconsultes pour savoir si l'esclavage était contre le droit naturel et quelle devait être l'étendue de la puissance du maître sur les esclaves. Mais depuis Aristote, les choses ont bien changé de face sur la terre. Je saute. Ainsi, toutes les maximes, tous les traits d'érudition que Bodin rassemble se détruisent par l'exception des lois postérieures à ses ouvrages. L'idée est nette, plus encore que l'apparition du christianisme, c'est la découverte des Amériques et l'établissement du commerce colonial qui ont changé la donne de manière radicale. Pour Tribard, aucune maxime antérieure ne saurait avoir de valeur. Et ce qui est particulièrement ironique ici, c'est que dans le même passage, Bodin est qualifié d'auteur du XVe siècle. Sachez qu'il est né en 1530 et mort en 1596. Et son œuvre, Les Six Livres de la République, paru la première fois en 1576, il est donc inscrit pleinement dans le XVIe siècle. Et pourtant, Tribard dit ici, cet auteur écrivait dans le XVe siècle et par conséquent dans un temps bien antérieur à la conquête de l'Amérique. Manière pour lui de souligner à quel point, selon lui, cette conquête de l'Amérique change la donne juridique en fait. Alors, est-ce ignorance, malhonnêteté ou naïveté de la part de l'avocat? Je ne saurais dire, mais le geste m'intéresse puisque Tribar veut ici établir qu'il y a esclave et esclave, sans préciser cependant ce qui fait la singularité, selon lui, de l'esclavage transatlantique, sinon peut-être qu'il est pratiqué par des chrétiens. Alors un autre texte à ce propos, il est utile de s'y rapporter, un texte quasi contemporain, c'est le Dictionnaire des quatre consciences de Germain Fromageau. Il est intéressant au sens où il indique très bien de quelle manière, pour Fromageau, il est permis aux chrétiens d'avoir des esclaves. Je passe sur les arguments faute de temps, mais l'esclavage n'est pas un problème en soi, l'existence de l'esclavage n'est pas un crime. En revanche, tout en ayant noté que l'Ancien Testament parle d'esclaves et que le christianisme n'a pas aboli l'esclavage, la conclusion des docteurs de Sorbonne est sans ambiguïté, et vous l'avez donc ici en bas, il suit de tout ceci qu'on ne peut en sûreté de conscience acheter ni vendre des nègres parce qu'il y a de l'injustice dans ce commerce. Ce dictionnaire parle des cas de conscience plus que du juste et de l'injuste, il ne décide pas du droit, mais ici c'est bien l'impossibilité d'un enslavement juste qui interdit le sommeil de la conscience chrétienne. L'esclavage n'est pas criminel en soi, selon les docteurs, s'il est par exemple une forme de domesticité douce, s'il est la conséquence d'un enslavement volontaire, s'il concerne les vaincus dans une juste guerre ou s'il est la juste peine d'un odieux crime. Mais précisément parce que l'enslavement lié au commerce triangulaire s'est fait en dehors de tout cadre juridique et donc en dehors du droit qui définit une guerre juste, cet esclavage colonial est criminel. On peut juger l'esclavage tolérable et cependant dénoncer telle ou telle forme d'esclavage contemporain, et c'est ce que font ici les docteurs de manière, il me semble, assez frappante. J'en viens à mon dernier point. Des esclaves au cerf, l'édit 1315 de Louis le Hutin. Cette question, y a-t-il une équivalence entre esclave et esclave, mais également ici entre esclavage et servage? Elle est posée dans le procès de 1738 à partir d'un édit dont vous avez le texte ici, de Louis le Hutin en 1315, selon lequel donc toute personne qui pose le pied sur le royaume de France serait ramenée à franchise, texte qui est abondamment cité par les auteurs. Alors, indépendamment de la signification originelle de ce texte, ce qui est frappant ici, c'est que Maître Mallet, l'avocat de l'esclave, utilise ce parallèle entre les formes de servage et l'esclavage contemporain comme un argument en faveur de son client. Je vais, toujours faute de temps, passer rapidement. Vous voyez, en fait, hein, les étrangers prenant port en France et criant France et liberté sont hors de la puissance de celui qui les possédait. Les auteurs, donc, et Mallet ici en particulier, retracent l'histoire de l'abolition du servage en France et le font, je passe sur les différentes étapes, mais en montrant que cela a donné lieu, non pas à un tout ou rien, hein, il y avait des serfs et puis du jour au lendemain, il n'y a plus de serfs, mais par degré, et que quantité de formes de servage sont en réalité maintenues sur le territoire français. On les appelle les gens de main morte, notamment. Donc, tous ces droits de corvée, etc., sont mentionnés par les avocats. Il s'inspire ici du droit coutumier et notamment de ce livre d'Antoine Loisel, « Les institutes coutumières », où vous avez notamment ici, au titre 3, hein, toutes personnes sont franches en ce royaume, etc. Et c'est ça qui est évoqué par les avocats. Alors, ce qui m'intéressera ici en particulier, bon, il y a différentes éditions, il faudrait les commenter une par une, mais c'est la réédition qui est donnée en 1710 par Eusèbe de Laurière, du même texte. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que vous allez avoir une décomposition de la formule en deux parties. La première partie, toutes personnes sont franches. Et ici, Eusèbe indique, le commentateur donc indique, qu'il ne peut pas s'agir ici des serfs, mais qu'il s'agit bien des esclaves. Évidemment, on ne peut pas dire qu'il s'agit des serfs, puisqu'il y a des serfs en France. Donc il est évident que les serfs ne sont pas libérés par le principe d'être en France. Donc il dit, cela s'applique uniquement aux esclaves. Deuxième point, et c'est la conclusion que vous avez ici en haut à droite, hein, il faut cependant remarquer que cette règle, qui libère donc, n'a pas lieu à l'égard des esclaves nègres de nos îles de l'Amérique qui viennent ici avec leurs maîtres. Donc ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas des maîtres, des serfs, pardon, mais des esclaves, mais il s'agit de tous les esclaves, sauf des esclaves de l'Amérique. Donc c'est vraiment extrêmement frappant par la manière dont c'est présenté. Et il semble que tout dépende en vérité de la nature du maître. On ne touche pas aux esclaves des maîtres catholiques. Le code noir de 1685 doit veiller à cela. Et ici, ce point de vue me paraît exactement inverse de celui qu'on a rencontré chez Fromageau. Alors, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que l'historienne Sue Peabody, qui a vraiment fait des travaux passionnants sur ce cas, c'est même le titre de son livre, hein, « There are no slaves in France », considère que toutes les personnes qui utilisent l'édit de 1315 au XVIIIe siècle font en vérité un contresens historique. Hein. Vous voyez ici « a slight misreading of historical evidence ». On ne peut pas déduire de l'édit de 1315 la liberté de Jean Boucault. Donc elle donne un ensemble d'analyses de textes pour expliquer que, par exemple, l'édit de 1315 s'applique sous conditions. Il faut par exemple se convertir pour pouvoir être libéré. Ce n'est pas le simple fait de poser les pieds sur cette sainte et digne et magnifique terre de France qui vous libère. Donc voilà. Donc elle dénonce, on pourrait dire ainsi, ce qu'elle appelle une sorte de mystification et d'instrumentalisation de l'édit au profit de la cause anti-esclavagiste. Hein. Le caractère mythique, écrit-elle, du droit coutumier était si puissant que l'avocat qui avait le plus à gagner à le contester ne fit aucune observation contre ce principe coutumier. Et oui, en effet, on a beau dire que l'édit de 1315 ne doit pas être appliqué en 1738, il y a quand même un phénomène marquant dans ce procès, c'est que, eh bien, même Tribard, l'avocat du maître, ne dénonce pas le fait qu'on recourt à ce principe. Donc c'est véritablement saisissant. Tout le monde accepte cette idée, en fait. Et l'autre élément, il me semble, qui va un peu contre cette lecture, historiquement précise, mais également fausse, hein, de Peabody, c'est que l'édit de Louis X le Hutin continue d'être, cité là, ici dans l'article « Esclavage de l'encyclopédie ». Donc ça continue d'être une référence partagée. Alors, qu'est-ce que ça nous montre, on pourrait dire? Ça nous montre qu'il y a une véritable, je me suis complètement paumé dans mes notes, il y a une véritable opérativité, en fait, de cette référence au texte de 1315. L'enjeu du procès également, et c'est ça qui est très important pour nous par rapport à ce que j'essaye de montrer comme une sorte d'élargissement, hein, à partir du cas de l'esclave de Saint-Domingue à l'ensemble des formes de servitude. L'enjeu du procès n'est pas seulement le maintien dans la servitude des nègres des Antilles, il soulève la question de la liberté ou de la servitude de l'ensemble du peuple français. La plaidoirie de Maître Mallet, l'avocat de Boucault, retrace l'histoire des abolitions de l'esclavage sur le territoire français, tandis que celle de Maître Tribard, l'avocat du maître, s'emploie à montrer au contraire la persistance de formes euphémisées de servitude, non pas aux Antilles, mais sur le territoire métropolitain de la France. Qu'il s'agisse donc de statuts dépendants, gens de main morte, gens de poursuite, ou de droits seigneuriaux, droits de corvée, droits de taille. Le rôle joué par l'édit de 1315 indique un parallèle entre servage et esclavage, c'est-à-dire une forme d'équivalence entre les formes de la servitude. Cela ne doit pas nous dispenser, il me semble, de blâmer l'abstraction, par exemple, de l'analyse rousseauiste, lorsqu'il dénonce toute servitude avec grandiloquence, tout esclavage avec grandiloquence, mais sans évoquer la traite. Sur ce point, il me semble que les docteurs de la Sorbonne, comme Fromageau, ont été peut-être plus perspicaces et plus lucides, plus radicaux aussi, en un sens. Autrement dit, le parallèle entre les différentes formes d'asservissement ne doit pas nous rendre aveugles à l'indécence qu'il y a à assimiler les deux conditions. L'emploi du mot « esclave » pour désigner la condition de citoyen libre a quelque chose, je dois le dire, pour moi, d'horripilant. Mais, je continue, je voudrais conclure avec Marc Bloch et quelques débats historiques, historiographiques, très brièvement, relatifs à cette terminologie de l'esclavage. Marc Bloch, on le sait, a fait une critique sévère de l'expression « serf de la glèbe », indépendamment de toute hésitation quant à la terminologie. Il nota dans cet article comment, au début du XIIIe siècle, il y a eu un rejet du terme « servus », afin de mieux marquer la différence entre le serf médiéval, sorte de paysan subordonné mais juridiquement libre, et du servus romain. Les auteurs, alors, tendent à utiliser d'autres mots, comme celui de famuli, mais de telles transformations lexicales étaient mal acceptées par les stylistes, par les scribes, et étaient jugées comme d'importuns gallicismes. Servus était généralement préféré par ceux qui écrivent bien, car le terme était classiquement cicéronien. Et ce que note Bloch, c'est que ces gallicismes traduisaient en fait le sentiment d'une spécificité du servage en France, mal rendu par le terme « servi ». Par ailleurs, Bloch rappelait dans cet article, à ne pas confondre deux institutions. L'expression « serf de la glèbe », dit-il, renvoie originellement à l'institution du colonat, c'est-à-dire ce qu'on appelle la condition qu'avaient sous la loi romaine les agriculteurs qui, sans être esclaves, étaient précisément attachés à la glèbe, c'est-à-dire au sol. Pour Bloch, on ne doit pas appliquer au servage médiéval une expression formée pour le colonat de l'Empire romain. Cela est fautif. Colonat et servage, j'entends ici le servage de la féodalité, on imaginerait difficilement, écrit Bloch, deux institutions plus profondément différentes. Bloch note également comment cette expression « serf de la glèbe » a été relancée par Montesquieu, qui parla de « servitude de la glèbe ». L'expression frappa alors les esprits et tout le monde voulut voir le paysan esclave du sol. L'expression avait de quoi susciter l'indignation, mais finalement, « serf de la glèbe » n'est qu'un synonyme éloquent de ce mot trop court « serf ». Alors disons « serf » très sobrement, sans projeter sur lui de quelconques anachronismes. « Serf » donc. Mais quid de « servus » Que se passe-t-il quand on parle latin? Et comment traduire justement en français les occurrences du latin servi. Le second point que nous enseigne Bloch, plus particulièrement dans le second article que je cite ici, est que, quelle que soit l'histoire des termes, il y a bien un phénomène commun qui légitime l'emploi du mot servus, dans toute sa richesse sémantique de conditions et d'institutions. Et quel est ce sentiment? C'est qu'il s'agit à chaque fois de manière de désigner la privation de liberté. D'un côté, ne nous laissons pas prendre au piège des mots, mais observons quelles sont les institutions qui sont chaque fois désignées très précisément par les termes. Mais de l'autre côté, voyons bien tout ce que ces situations ont de commun en ce qu'elles nous parlent d'un même sentiment, celui de la privation de liberté. Si Bloch paraît insister davantage sur les contrastes entre les situations, l'affaire Boucault contre Verdelin, que je vous ai retracée brièvement, nous montre quel peut être l'intérêt stratégique et l'opérativité juridique qu'il y a ici à confondre deux réalités historiques qui n'ont peut-être pas grand-chose en commun. Je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.